Bonsoir tout le monde, ici Vladimir, nous sommes le mardi 10 février, il est 19h58 et vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Depuis le mois de juillet, je suis parisien. Enfin, pas tout à fait parisien, parce que quand on me demande où j'habite, je précise en disant « dans le 94, c'est Charenton, mais c'est direct sur la 8 quand même ». Et dire ça, je trouve que ça fait quand même vachement parisien. Depuis juillet donc, je découvre la capitale, son histoire, sa vie et son peuple, et je commence à savoir placer les arrondissements sur la carte, à râler quand on m'invite en soirée rive gauche, ou à vérifier si mon Vélib a bien toutes ses pédales. Et je m'étonne aussi de ne plus avoir à vérifier tous les jours la qualité de l'air pour prendre le vélo ou aller courir, comme je le faisais avant quand j'habitais à Lille, en essayant d'esquiver les nombreux pics de pollution qu'il y avait là-bas. Et pour cause, d'après des études récentes, la qualité de l'air s'est nettement améliorée dans la métropole du Grand Paris, que ce soit sur les oxydes d'azote ou les particules en suspension. En 20 ans, l'air de Paris est redevenu respirable. Et pour nombre d'experts, cette augmentation de la qualité de l'air est la cause directe des politiques publiques. Transformation du trafic routier avec des véhicules moins polluants, développement de l'électrique, promotion des transports publics, piétonnisation et autres aménagements urbains, rénovation énergétique des logements, autant de champs d'action publics locaux qui ont des retombées positives aujourd'hui. Un motard m'avait dit l'autre jour, il y a 30 ans, je lavais ma veste de moto toutes les semaines, la polaire était noire. Se balader dans les rues de Paris aujourd'hui est un plaisir. Alors, est-ce que ça fait de moi un infâme islamo-gauchisto-bobo-wokiste que de me réjouir de cette évolution ? Ou est-ce qu'on constate que des décisions politiques locales ambitieuses peuvent avoir des impacts réels en termes de santé publique ? Eh bien, c'est ces questions et plein d'autres qu'on va essayer de décortiquer ensemble dans cette matinale du mardi, dédiée aux élections municipales, dans cette mardicipale de Radio Campus Paris. Au sommaire de la matinale ce soir, on reçoit Dalia Stern, porte-parole d'Action Justice Climat, pour parler des décisions que les élus peuvent prendre pour adapter le Grand Paris au dérèglement climatique. Elle sera interviewée par Abel. On fera un zoom sur les politiques de transport public avec Marc Pellissier, président de l'Association des usagers des transports d'Île-de-France, interviewé par Alice. Tiana nous présentera le flash info du jour. À la chronique actu, nous aurons Grégory qui fera un focus sur la loi cadre relative au développement des transports en France. Et enfin, nous clôturons ce beau programme par une chronique libre de Fabrice. Vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM en Ile-de-France.
Les mardicipales. À l'approche des élections municipales 2026, la matinale de 19h vous propose sa série spéciale. Tous les mardis jusqu'au 10 mars sur Radio Campus Paris.
Et nous débarrons cette mardicipale en accueillant Dalia Stern, porte-parole d'Action Justice Climat. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Et Abel, je te laisse la main, c'est à toi.
Et ben pour moi, ce sera bonsoir. Bonsoir Radio Campus Paris, bonsoir Vladimir, mais surtout bonsoir Dalia Stern. Comme l'a dit mon cher présentateur à côté de moi, vous êtes porte-parole d'Action Justice Climat et c'est super de vous recevoir parce que nous, le climat, l'environnement, on aime bien. Et peut-être je peux vous demander de vous présenter un peu mieux. D'où vous venez, que faites-vous, qui êtes-vous ?
Ok, alors bonsoir, merci de m'accueillir ici. Donc je suis Dalia, je suis membre du collectif Action Justice Climat à Paris. On a aussi un groupe à Lyon et à Montpellier. Moi, dans la vie, je suis psychologue, ça c'est mon travail. Et donc Action Justice Climat, je suis activiste bénévole. Voilà, ça va bientôt faire 7 ans que je suis membre du collectif. Et je fais plein de choses, de banderole à coordinatrice avec d'autres personnes du groupe Bien-être Militant. Donc j'espère pouvoir vous donner un petit aperçu de ce qu'on fait dans ce collectif. Voilà, qu'est-ce que je peux dire depuis ? Je suis parisienne, intramuros.
Donc voilà. Tu vas voter à Paris.
Et donc je vote à Paris, ouais, depuis que je vote.
Mais du coup, peut-être, puisque vous faites partie d'Action Justice Climat, est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce que c'est plus précisément ?
Donc Action Justice Climat, c'est un mouvement citoyen qu'on dit qu'on est à la croisée des luttes, c'est-à-dire que on va dire la porte d'entrée de notre collectif, c'est la question du climat et de la justice sociale, mais en fait on n'a pas inventé cette idée-là, mais en tout cas on adhère à l'idée que le climat, c'est pas quelque chose qui est isolé du reste des sujets qui concernent tout le monde. Donc on va être à la croisée des luttes, c'est-à-dire des luttes féministes, des luttes antiracistes, des luttes décoloniales. Et quand on va penser un sujet avec la porte d'entrée du climat, on va aussi penser en fait les tenants et les aboutissants qui touchent à tout un tas de discriminations, d'oppressions, etc. Voilà, il y a pas que le climat en fait, il y a tout ce qui vient avec, et c'est le même système qui produit de l'injustice au niveau social, le dérèglement climatique, et qui produit aussi l'exploitation, notamment l'extractivisme, la colonisation, etc. Tout ça, c'est un peu le même package. Ça ne veut pas dire qu'on est situé au même endroit, et donc on a bien conscience que nous, on n'est pas à l'endroit où sont d'autres personnes concernées plus directement par la question du racisme, par exemple, mais qu'on prend en compte le fait qu'il y a toutes ces personnes-là qui sont aussi concernées par le climat et l'injustice au niveau social.
D'ailleurs, dans vos quatre grands principes que j'ai étudiés, il y a la lutte contre l'extrême droite et la construction d'alliances qui sont un peu ce que vous dites. Il y en a deux autres qui m'ont interloqué. Je vais peut-être vous demander de les expliquer. C'est l'écologie populaire et le militantisme soutenable.
Ouais. Alors, l'écologie populaire, pour faire simple, c'est une écologie qui parle à tout le monde et en fait aux gens de la vie normale, pas l'écologie pour Bernard Arnault ou l'écologie l'extrême droite pourrait prétendre faire de l'écologie. Évidemment, l'extrême droite ne fait pas d'écologie. Si elle a des arguments en faveur de l'écologie, ça sera jamais pour le bien commun, pour la solidarité, etc. Donc il y a l'idée que l'écologie, c'est politique, et que donc nous, on défend l'idée que une écologie populaire, c'est une écologie qui va s'adresser à tout le monde et qui va amener à plus de solidarité, plus d'égalité, plus de justice sociale en fait. Donc peut-être pour donner un exemple, l'écologie populaire, quand on va parler par exemple de la pollution de l'air en Île-de-France, ça va être de dire qu'il y a des zones qui sont plus impactés par la pollution de l'air. Si on va notamment au niveau de l'échangeur à Bagnolet, là où on a fait des actions avec d'autres collectifs locaux, par exemple, il y a quelques années, c'est montré aussi que la pollution de l'air, elle est d'autant plus importante et inquiétante à ces endroits-là, où il y a énormément de gens qui vivent. Donc c'est pas juste la qualité de l'air pour Paris intramuros, c'est aussi la situer par rapport aux personnes que ça impacte très directement, en fait.
D'accord. Voilà. Le militantisme soutenable, est-ce qu'on peut avoir un
là-dessus ? Le militantisme soutenable, c'est l'idée que il faut défendre nos conditions de militantisme. Enfin, il faut assurer nos conditions de militantisme, parce que lutter, c'est dur. Il y a cette idée que c'est pas un sprint, que c'est une course de relais ou une course de fond, et que du coup on a besoin de prendre soin de nous pour pouvoir rester engagé dans la lutte sur le long terme. L'idée, c'est de pas épuiser les forces, les membres du collectif, et puis de juste tourner, enfin voilà, de comme si on pouvait être comme ça remplaçable ad nauseum. Et l'idée aussi qu'on vient incarner à l'intérieur du collectif le modèle de société qu'on défend, en fait. Donc c'est aussi ça, c'est la question de la non-violence, de comment on peut faire société et collectif autrement. Donc on essaye, à travers le militantisme soutenable et le bien-être militant, la question de la non-violence, de nous déjà vivre ce monde qu'on aimerait bien voir advenir. Voilà.
Et justement, c'est dans ce cadre-là aussi que vous organisez, parce que vous avez parlé de la non-violence, etc., et des actions de désobéissance civile. Mmh. Qu'est-ce que ça signifie pour Action Justice Climat ou pour vous personnellement ? Pourquoi et comment on agit dans le cadre de la désobéissance civile ? Non-violente, évidemment.
Évidemment non violente. Enfin, en tout cas, ça, c'est notre cadre d'action. L'idée dans la désobéissance non violente, c'est qu'on vient. En fait, on estime que nos actions sont légitimes par rapport à l'urgence climatique, notamment, et que, en fait, d'une certaine manière, enfin, s'il fallait un peu polariser les choses, comme si on disait que nous, en fait, on est du côté de la justice et du droit et des devoirs qu'une société se doit à elle-même. Et donc on vient en fait créer une forme de tension entre la société civile, donc qu'on représente quand on est dans le cadre d'une action, face à des responsables en fait. Donc ça peut être des responsables politiques ou des responsables d'entreprise quand on fait une action, par exemple, de blocage d'une AG de Total. Ce qu'on vient montrer à ce moment-là de manière non violente, donc globalement on s'assoit par terre pour bloquer les portes. On n'a rien, on est vraiment que avec nos corps pour faire ces actions-là. Ce qu'on vient montrer, c'est un peu le j'allais dire la dinguerie.
Tu peux le dire.
La dinguerie que ça représente en fait des gens qui vont venir se réunir pour en fait décider, prendre des décisions pour leur portefeuille hein, globalement, mais qui vont avoir un impact absolument catastrophique sur le vivant, mais aussi sur des gens. Donc Total, notamment, c'est en Ouganda, au Mozambique, des conséquences sur de déplacements de population, de destruction du territoire, etc. Donc c'est pas que nous, évidemment, qui sommes impactés, c'est aussi d'autres territoires, plus loin que les limites de la France.
Eh ben, merci beaucoup pour cette super intro sur votre organisation. Et aussi, on vous a invité, c'est aussi pour parler des municipales. Et ici, c'est les mardicipales, si je me trompe pas.
On est mardi, c'est les mardicipales,
voilà,
c'est Radio
exactement.
Campus.
Donc, on voulait savoir comment, chez Action Justice Climat, est-ce que vous avez déjà agi dans le cadre des municipales et si oui, comment? Et si vous agissez pour ces municipales-là?
Je pense que tous les membres du collectif sont évidemment mobilisés à titre individuel, c'est-à-dire qu'il y a un truc d'être tout le temps dans l'idée qu'il faut défendre tous les petits bouts d'espace de vie où on peut faire quelque chose. On va aussi défendre notre vision. Ce qu'on a fait, notamment, lors des dernières municipales, il y a un peu plus de 5 ans, à Action Justice Climat, on était dans une coalition qui s'appelait La Rue est à nous et qui travaillait autour de la piétonnisation des rues, notamment aux abords des écoles, pour faire réduire la pollution de l'air pour les enfants en particulier, parce que les poumons des enfants sont plus fragiles, etc. Et du coup, le passage des voitures dans un milieu ultra-urbain comme Paris peut avoir des conséquences assez graves conséquences type troubles respiratoires, asthme et plein d'autres maladies associées. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on a fait à l'époque. Là, si on reprend aux législatives, par exemple, on a pu aussi apporter du soutien logistique à des collectifs, par exemple la jeunesse populaire qui s'est engagée pour mobiliser autour du vote des jeunes. Donc parfois on fait des choses nous directement et parfois on fait des choses indirectement. Et puis on donne la parole aussi, je crois que vous vouliez en parler, on donne la parole à Victoire Populaire dans un espace d'échange.
Oui. Ouais. On en parlera justement sur les ouvertures en deuxième partie d'interview. Mais du coup, est-ce que j'avais une petite question sur est-ce que vous faites aussi de la, on va dire de la prévention ou de l'explication sur les risques climatiques propres à la région parisienne, sur ce qui peut arriver dans le cadre du dérèglement climatique, parce qu'on sait qu'il y a des zones qui sont très à risque en général dans tout ça, mais on parle peut-être un peu moins de ce genre de villes que peuvent être Paris. On les imagine moins comme les côtes qui sont plus victimes d'érosion, etc. Est-ce qu'à Paris, il y a vraiment, si vous pouvez nous dire, on a une petite minute encore, si vous pouvez nous dire quels sont les risques spécifiques liés au dérèglement climatique à Paris. Est-ce que vous agissez aussi là-dessus?
Alors, je ne sais pas si on agit directement, et il y a des orgas qui le font hyper bien analyser. Enfin, nous, on n'est pas une orga de plaidoyer citoyen, donc on n'a pas des gens qui bossent sur le fond du fond de la science, etc. Nous, on est vraiment une orga de mobilisation. Les risques à Paris, ils sont énormes. Enfin, à Paris et en Île-de-France, ils sont liés au cadre de vie, je dirais, en premier lieu. C'est une région ultra peuplée, ultra saturée, et du coup, il y a énormément de... Enfin, les conséquences qu'on pourrait vivre dans notre quotidien, c'est tout ce qui va concerner la pollution de l'air, la dégradation des sols, la pollution de l'eau ou des choses comme ça qui vont avoir un impact sur nos vies avec potentiellement une réduction de l'espérance de vie ou en tout cas de vie en bonne santé. Ce qui en vrai n'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'il y a eu des études qui montraient que la population parisienne ou francilienne subit en fait ces conditions de vie au travers de sa santé, quoi.
Et notamment autour des vagues de chaleur de plus en plus nombreuses. Je pense que ça aussi,
par
ça rentre un peu aussi dans comment est-ce que les populations peuvent s'adapter un peu à tout ça.
Oui, complètement.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ces premiers éclairages. On reprend cette interview très rapidement après une petite pause musicale en écoutant Life on Mars de David Bowie. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freakiest show. Take a look at the C'était Life on Mars de David Bowie. Il est 19h19 et vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris.
Les Mardicipales, dans la matinale de 19h.
Et nous sommes toujours avec Dahlia Stern, porte-parole d'Action Justice Climat, et nous parlons de politique locale et de manière de sensibiliser les gens pour s'adapter aux dérèglements climatiques et faire porter leur voix. On est toujours avec Abel. Abel, je te laisse la main.
Merci. J'allais dire Félix, mais Vladimir,
on n'est pas gros. Appelle-moi Félix, hein, ça ira très bien.
Merci beaucoup et rebonsoir Dahlia. Pour enchaîner, on va repartir sur les municipales, vu que c'est un peu le thème de ce soir. De votre point de vue d'activiste, sous quelle dynamique environnementale on va voir ces élections se dérouler? Quelle est la place de l'environnement dans ces élections?
Je dirais que c'est jamais assez d'un point de vue activiste. On n'en parle jamais assez du climat ou en tout cas de l'écologie au sens de, vous savez, éco, ça vient de oikos en Grèce qui veut dire la maison. Et en fait, ça, je pense qu'on n'en parle jamais assez. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire notre propre maison. Ce sera une grande réussite de l'humanité. Et je pense que ça, on n'en parle vraiment pas assez. Et puis les sujets adorés de l'extrême droite prennent beaucoup trop de place dans les médias et dans l'espace public. Et donc, vraiment, je pense que il faudrait qu'on parle beaucoup plus d'écologie. Il y a eu une montée du sujet à partir de 2015 avec les grandes marches en 2018, la mobilisation citoyenne historique avec des centaines de milliers de gens dans les rues de France et de Navarre. Maintenant, c'est un sujet qui peine à avoir suffisamment d'espace. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est des tout petits pourcentages de temps de, enfin voilà, le temps de parole sur ce sujet-là, c'est microscopique, en tout cas suffisamment, enfin pas suffisamment assez. Par rapport à l'enjeu, quoi, qui est par contre énorme, qui est l'enjeu de nos générations, je pense. Enfin...
Oui, ça c'est sûr. Mmh. Et du coup, justement, maintenant, par rapport aux précédentes élections, est-ce qu'on voit des changements dynamiques, je veux dire, une progression, ou comme vous en avez un peu parlé, qu'il y a une forme de régression, mais en tout cas, dans les municipales, ce n'est pas toujours les mêmes enjeux. Est-ce que dans les municipales, on arrive à avoir une marge de manœuvre sur ces sujets-là?
En tout cas, moi, je pense que l'enjeu pour nous, société civile, citoyens, citoyennes, c'est de surveiller absolument le programme des candidats et des candidates dans les mairies dans lesquelles on va voter et de veiller à ce que ça soit des sujets qui soient mis sur la table. Moi, je pense que le rôle de la société civile, c'est précisément de tenir pour responsables les responsables. Donc, à la fois, on va voter, évidemment, mais si on peut, on s'engage et il y a ce truc de faire pression en permanence, quoi. On ne peut pas dire c'est bon, ça va être pris en charge et puis c'est fait. Faut pas faire confiance totalement et rester engagé sur le sujet, ouais.
Et justement, vous parliez de l'extrême droite juste avant. Est-ce que on pourrait faire des liens entre l'apparition ou la disparition des sujets environnementaux avec la montée de l'extrême droite qui, en plus de prendre beaucoup de place dans les sujets, entretient une espèce de lien avec une nébuleuse climato-sceptique?
Ça va ensemble. C'est-à-dire que l'extrême droite est un peu par définition climato-sceptique, il me semble. Et puis justement, moi j'avais envie de dire que les mairies d'extrême droite, c'est des mairies qui sont très explicites sur leur programme politique concernant l'écologie. Un truc que peuvent faire les mairies, par exemple, c'est soutenir des associations de formation, de sensibilisation, les associations qui vont intervenir dans les écoles, la programmation des mairies, des festivals, etc., qui peuvent être proposées par les collectivités territoriales. Les mairies d'extrême droite, on sait très bien ce qu'elles vont faire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sujet, pas d'association soutenue qui pourrait faire de la promotion de l'écologie au sens super large, de faire son compost, des trucs sujets très simples, à comment on fait pour maintenir la biodiversité ou des choses comme ça. Ça va aussi être le choix des journaux qui sont distribués dans les bibliothèques municipales ou qui sont envoyés, le journal municipal qui est envoyé aux citoyens. Enfin, en vrai, il y a des... L'extrême droite peut vraiment, colporter des idées climato-sceptiques en ayant accès aux mairies, justement. Enfin,
okay.
Pas exactement la question, mais...
Non, mais c'est super. C'est toujours des bonnes informations à prendre. Et est-ce qu'il y a des terrains, je vais peut-être parler plus au niveau parisien, mais des terrains plus concrets qui animent les élections municipales? Parce que bon, on a déjà eu les quais, on a eu les pistes cyclables. Sur quoi maintenant on va chercher à avancer au niveau de Paris?
Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites du côté de la qualité de l'air, donc notamment avec les ZFE, donc les zones à faible émission. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on a pu entendre autour de la réduction de la vitesse sur le périph, les zones de plus en plus piétonnisées ou des choses comme ça, la préservation des espaces verts, etc. Moi, il me semble, et c'est peut-être parce que c'est un sujet qui me touche un peu personnellement, mais enfin, en tout cas qui m'anime personnellement, c'est la question de la préservation des terres agricoles, voire de l'orientation vers plus de terres agricoles. Il faut savoir aujourd'hui que l'autonomie alimentaire de Paris, c'est 4 jours. Donc ça veut dire que si nous n'avons plus d'entrée de nourriture des autres régions ou d'autres pays, en 4 jours, Paris n'a plus à manger. Enfin voilà, moi ça me fait un petit peu peur. Donc il y a un vrai enjeu à prioriser la destination des friches ou des terres agricoles sortantes. Enfin, un agriculteur, une agricultrice part à la retraite. Il faut absolument que les terres restent destinées à l'agriculture et à l'agriculture paysanne, c'est mieux. Parce que pareil, il faut savoir qu'en Île-de-France, la majorité des terres est destinée à l'exportation. C'est-à-dire que globalement, on produit du blé en Île-de-France et ça part dans toutes les autres régions de France.
L'Île-de-France n'est pas autosuffisante en termes de variété de produits qui sont produits pour la région parisienne. Non. C'est essentiellement de
l'import, du coup. Ouais. Enfin, on exporte majoritairement la production et on importe pour pouvoir manger au quotidien.
Il y a une tendance à la bétonisation croissante aussi par rapport à toutes ces terres agricoles.
Complètement.
Et donc, c'est ce contre quoi vous vous battez et ce pourquoi les mairies, selon vous, devraient vraiment, contre lequel ils devraient agir.
Ouais, parce qu'il faut savoir que les mairies, elles ont un pouvoir donc à la fois de préemption sur les terres et un pouvoir de décision sur la destination des terres. Ça veut dire qu'une friche, ce qu'on appelle une friche, peut rester une friche, donc une zone naturelle à défendre qui est propice à la biodiversité. Ça peut être un terrain d'agriculture biologique qui va servir à nourrir les habitants du coin, ou ça peut être un entrepôt de e-commerce. Voilà. Bon, évidemment, nous, on s'oppose à l'implantation de nouveaux entrepôts de e-commerce en Île-de-France. On a fait des actions dans ce sens-là il y a quelques années. En vrai, c'est ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, c'est-à-dire qu'on va dire, bah, ok, cette zone-là, on s'en fiche, c'est à Pétaouchnok, personne n'habite là, personne ne voit. Donc on va autoriser une grosse entreprise à venir. Bah, les grosses entreprises, elles ratissent tout, elles mettent du béton, elles installent leurs usines. Ça ne fait pas vivre vraiment. Enfin, il y a toujours l'argument de ça fait vivre le commerce. C'est pas vrai. Voilà. Donc, effectivement, ça, c'est un truc hyper important. les terres.
Mais est-ce que, parce que là, du coup, c'est plutôt un sujet de. Voilà, on doit préserver certains territoires. Est-ce qu'on a des moyens d'adapter aussi les territoires ?
En fait, je pense que, comment dire, oui, il y a préserver et il y a adapter. Mais adapter, c'est aussi faire plus. Enfin, c'est donc il faut préserver ce qui est encore ce qui existe, et puis il faut développer encore plus de mesures. Donc, encore une fois, le truc des terres agricoles, par exemple, c'est admettons une exploitation ferme au lieu qu'elle soit destinée à être rachetée par un agglomérat qui va faire du blé. Si la mairie préempte la terre et exige, détermine que sa destination, ça va être du maraîchage, ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du développement. Voilà. Enfin.
Mais justement, donc, c'est la mairie qui a le poids décisionnaire pour ce genre de sujet. Et est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs des mairies ? Parce que, bon, si vous le savez, on est dans le mardicipal, donc on veut parler des mairies. Et c'est quoi les pouvoirs des mairies sur les sujets environnementaux ? Et par cascade, du coup, quels impacts aussi sur nos quotidiens ?
Ouais. Alors, nous, ce qu'on avait montré sur les dernières municipales il y a 5 ans, c'est qu'en fait, 50% des mesures en faveur de l'écologie sont entre les mains des maires. Tout simplement parce qu'en fait, c'est les collectivités territoriales qui doivent appliquer la loi, les lois en faveur de l'environnement. Donc, en gros, tout ce qui est voté à l'Assemblée nationale, il faut bien que ça soit appliqué par des gens. Ces gens-là, c'est les collectivités territoriales. Donc en fait, c'est énorme le pouvoir. C'est pour ça que c'est des élections hyper importantes. En fonction des mairies qu'on va élire, il va y avoir une direction politique qui va être prise pour l'aménagement du territoire. Sur l'aménagement du territoire, il y a notamment le PLU, donc le plan local d'urbanisation, qui détermine un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui va être du logement social ? Qu'est-ce qui va être des terres agricoles ? Qu'est-ce qui va être, j'en sais rien, un territoire pour la construction d'un hôpital, des services publics ou des trucs comme ça. Donc en vrai, c'est hyper important. Écologie et justice sociale, c'est vraiment à cet endroit-là que ça va se jouer, en fait.
Et moi, du coup, j'avais une dernière question. Il nous reste une petite minute avant de clore cette interview. Qu'est-ce que nous, on peut faire, par exemple, en tant que citoyens qui habitons aussi dans des villes, peut-être pour s'engager, ou en tout cas pour essayer de faire pression aussi sur les mairies, pour donner plus d'importance à ces enjeux climatiques. J'ai vu que vous organisiez notamment un événement le 14 février pour redonner goût à l'engagement citoyen dans ce cadre-là, au bar The Wrong Side dans le 18e. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ?
Bah, c'est vrai que c'est un événement qu'on fait donc, avec les Victoires Populaires. Et c'est un collectif qui a émergé notamment au moment des législatives et qui va faire beaucoup de sensibilisation, de tractage, etc. Autour des municipales. Donc effectivement, ça, en tant que citoyen, citoyenne, on peut aller tracter pour soutenir une liste en mairie. On peut aussi s'engager dans des associations. La société civile, c'est à travers aussi les associations qu'on va pouvoir porter une voix, défendre des idées, défendre une vision politique en fait. Et il faut tenir les responsables pour responsables.
Merci beaucoup Dalia Stern. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Action Justice Climat. Votre engagement et vos actions sont consultables sur votre site actionjusticeclimat-paris.fr ou sur les réseaux sociaux. Je rappelle du coup ce petit événement The Wrong Side à Paris dans le 18e le 14 février pour redonner goût à l'engagement citoyen. Merci beaucoup Abel d'avoir conduit cette interview.
Merci à vous deux.
Et vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris. Il est 19h30 et 50 secondes et c'est l'heure du Flash Info qui nous est présenté ce soir par Tiana.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Aujourd'hui, on s'envole pour la Corée du Sud, là où les autorités ont perquisitionné ses propres services de renseignement pour enquêter sur trois civils ayant été accusés d'avoir envoyé des drones en Corée du Nord. Des mandats de saisie ont été exécutés dans 18 lieux au total, dont le Service national de renseignement. Le président a lui-même dénoncé cet incident, soulignant qu'il pouvait déclencher la guerre entre les deux États, étant donné qu'il n'avait pas signé de traité de paix à l'issue de la guerre de Corée en 1953. Et puis maintenant, cap sur l'Amérique. De l'autre côté du Pacifique, les Américains ont frappé un bateau de narcotrafiquants présumé en pleine nuit. Le bilan est de 2 morts, ce sont les décès qui s'ajoutent aux 130 comptés depuis septembre, soit le moment où a commencé la campagne de frappe américaine contre ces embarcations. Et puis, que se passe-t-il aujourd'hui en France ? Après l'affaire des assistants parlementaires, la justice traite aujourd'hui l'affaire d'un autre représentant d'extrême droite. Le sénateur Stéphane Ravier, issu du RN, sera jugé pour favoritisme et pour prise illégale d'intérêt lors de son mandat de maire du 7e arrondissement de Marseille. Il est accusé, entre autres, d'avoir triché avec les règles des marchés publics pendant que se rénovait le site internet de sa mairie. Côté diplomatie, le ministère des Affaires étrangères a annoncé aujourd'hui que le président se rendra du 17 au 19 février en Inde à l'occasion du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Cette visite souhaite entretenir le partenariat entre les deux pays qui avaient déjà organisé ensemble le sommet de l'année dernière à Paris. Ce sera le moment de voir quelles ont été les avancées dans le domaine de l'IA en 2025. Et maintenant, je m'adresse aux Parisiens. Vous qui suivez les municipales avec attention, vous avez sûrement entendu parler de la polémique sur Madame Sarah Knafo, la candidate du Parti Reconquête au municipal, qui disait que le prix du pass Navigo était de 52 euros par an. Sachez que le Parisien a publié aujourd'hui un petit quiz pour voir si vous connaissiez vous-même le coût de la vie à Paris. Devinez le prix d'un menu kebab ou bien d'un 40 mètres carrés dans le 11e. Vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça et finalement, ça vous orientera peut-être dans votre choix électoral. Je vous invite donc à vous divertir quelques minutes, histoire d'oublier les déclarations toujours plus folles de nos candidats.
Merci beaucoup Tiana pour ce Flash Info. On enchaîne avec une petite pause musicale en écoutant Baggy Trousers de Madness.
To fight the next of a plastic cup. Oh, what fun we had. But did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had. But at that time it seemed so bad, trying different ways to make it through the day.
C'était Baggy Trousers du groupe Madness. Il est 19h36 et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h.
Les Mardicipales dans la matinale de 19h.
Et c'est désormais l'heure de la chronique actu de Greg. Salut Greg.
Salut. Donc ce mercredi 11 février sera présenté au Conseil des ministres la loi cadre sur les transports. Le texte doit définir les politiques de mobilité pour les 20 ans à venir. Mais ça semble déjà bien mal embarqué à cause de l'article 11 qui propose d'indexer le tarif des transports en commun sur l'inflation. En gros, tu galères déjà à t'acheter un paquet de pâtes et bim, on t'enfonce un peu plus la tête sous l'eau avec le prix de ta carte de bus qui explose. Bientôt, bouffer ou se faire conduire, bah faudra choisir.
Mais comment feront alors tous ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre les transports en commun ?
Très bonne question. Et je n'ai évidemment pas la réponse. Mais comme je suis sympa, j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs. Je me suis dit qu'il devait bien exister des moyens de transport un peu vertueux et pas chers. Bon, ben, j'ai pas été déçu. J'en ai gardé trois qui valent le détour. Pour débuter, j'ai choisi les échasses urbaines venues d'Allemagne. Alors, c'est à peu près les mêmes échasses que celles des saltimbanques qui jonglent avec des bolas enflammées au festival d'Aurillac. Mais comme on ajoute « urbaine » derrière, ça fait tout de suite beaucoup plus chic. Un peu comme les fameuses forêts urbaines à Paris, qui ne sont au final que trois arbres plantés dans du béton. En tout cas, si ça vous tente, une fois hissé sur ces échasses en fibres de verre, vous pourrez, paraît-il, parcourir jusqu'à 40 km en une heure. L'avantage, bah, on est totalement autonome et on n'a pas à supporter l'odeur des gens dans le métro. L'inconvénient, il faut avoir un minimum d'équilibre. Ensuite, en mode plus intimiste, on a les toboggans de Madère. Vous pouvez vous installer dans une sorte de grand panier en osier, poussé par deux conducteurs. Alors c'est parfait en descente, mais ça peut vite devenir une grosse galère en montée. Et enfin, pour celles et ceux qui n'aiment pas voyager seuls, le Canada et l'Australie ont mis en place le Pédibus. Il s'agit de quelques adultes, souvent avec des gilets fluo, qui prennent en charge un groupe de marcheurs et qui les déposent à différents arrêts en toute sécurité. Attention à ne pas confondre avec le Pédobus conduit par Harvey Weinstein, et qui fait un autre type de ramassage scolaire.
Donc au final, on ne garde rien de ce qui se fait à l'étranger.
Eh bien écoute, il y a bien une proposition qui pourrait être intéressante, et ça se passe chez nos voisins anglais. Il y a quelques années, ils ont lancé le premier Poo-Bus, qu'on peut traduire tout simplement par bus à caca. Et il porte bien son nom car il fonctionne avec du biométhane produit, entre autres, par la fermentation de déjections humaines. Bon appétit. Alors, c'est pas la première fois que l'Angleterre innove en matière de transport. Elle avait déjà développé des bus alimentés aux mares de café. Du coup, j'ai totalement la vision de ce qui pourrait être fait. Vous montez dans le bus, vous payez en insérant une capsule de café, recyclable hein, bien sûr. Une fois votre café coulé, vous vous installez sur le siège de votre choix, qui n'est rien d'autre qu'une cuvette de toilette. Alors, est-ce qu'on met des toilettes fermées ou tout ouvert ? Bon, ça, c'est à creuser. Mais normalement, si la règle des 3 C s'applique, café, car, caca, le corps devrait faire son travail et nous permettre de nous déplacer bio et pas cher. On est pas mal là, non ? Non ? Bon, ok, j'ai compris. Malgré l'évidence de cette proposition, on est bien d'accord qu'il y a peu de chances qu'elle soit retenue demain dans la loi cadre. Et en vrai, c'est pas très grave. Non, ce qui compte vraiment au fond, c'est qu'avec ou sans Poo-Bus, cette loi sur les transports ne fout personne dans la merde.
Merci Greg pour cette chronique actu très thématique. On reste dans le thème des Mardicipales. On passe maintenant au Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et pour ce Zoom spécial Mardicipal, on accueille Marc Pélissier, président de l'Association des usagers des transports d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec moi Alice qui va vous interviewer. Salut Alice.
Salut Vladimir. Bonsoir Marc Pélissier. Alors Vladimir l'a dit, vous êtes le président de l'Association des usagers des transports d'Île-de-France. On sait que ce sujet des transports franciliens est plus qu'épineux. Il y a souvent beaucoup de critiques de la part des usagers. Pour un peu plus de détails, le rôle de votre association est justement de faire valoir leurs droits auprès des pouvoirs publics et des entreprises de transport. Vous agissez aussi pour l'amélioration et le développement des transports collectifs en général, la sécurité routière, des transports en commun plus respectueux du cadre de vie et de l'environnement, etc. etc. Peut-être, juste pour commencer, est-ce que vous avez des éléments de réponse pour essayer de comprendre ce qui pêche entre la relation entre les usagers et ceux qui font les transports? Est-ce que c'est la RATP Île-de-France et les autres qui communiquent mal? Est-ce que ce sont les usagers qui ne vont pas assez voir les projets en cours? Comment expliquer les critiques en fait, des usagers envers les transports?
On est dans un système francilien où il y a beaucoup d'acteurs. Il y a ces entreprises historiques, RATP, SNCF, et puis il y a les élus à travers la région Île-de-France Mobilité, et il y a aussi le réseau ferré national. Donc on a rajouté le Grand Paris, donc en fait on a plein d'intervenants, et puis on a également en voirie pour les bus et les tramways, toutes les villes, les départements qui ont leur mot à dire. Donc ça n'aide pas forcément à faire avancer les choses, même si quand on va voir les gens un par un, ils ont l'air de bonne volonté. Mais malgré tout, derrière, c'est difficile.
Ouais, donc pas de communication entre eux, peut-être, ou pas assez de coordination. Ce qui complique aussi beaucoup les choses, c'est, on en a un petit peu parlé dans l'actu, la tarification qui ne cesse d'augmenter, avec le fameux prix du pass Navigo. Alors, il augmente autant pour les salariés que pour les employeurs. Depuis un an, d'ailleurs, le ticket, il s'est généralisé. Il y a un tarif unique, qu'on soit un usager occasionnel ou régulier, donc avec un tarif de 2,05 € ou 2,55 € selon les modes de transport. Alors, la tarification peut paraître intéressante, mais alors, quand on a une situation précaire, par exemple, on a obtenu son diplôme de master, on n'a pas réussi à trouver un emploi stable, on vit à Paris en banlieue, on dépasse les 25 ans, on n'a plus les tarifications avantageuses. Selon vous, pourquoi est-ce que l'Île-de-France Mobilité ou la RATP, ils n'ont pas conservé un système adapté du prix du ticket aujourd'hui ?
C'est vrai qu'on a un système dans lequel les tarifs augmentent chaque année. Alors, nous, il faut reconnaître qu'on a dit plutôt d'accord sous condition que tout le monde participe, les employeurs, les collectivités, et surtout qu'en face, il y a des améliorations concrètes sur le réseau. Mais par contre, il faut avoir des tarifs adaptés au public qui en ont besoin. Et donc, il existe des choses, effectivement, pour les enfants, pour les étudiants, pour les seniors aussi. C'est vrai qu'il y a des catégories encore aujourd'hui. Alors, si vous êtes au RSA, vous avez quand même des choses, mais il y a des catégories de gens qui, effectivement, n'ont droit à aucune réduction. Et ça, il faudrait corriger ça. Mais c'est aussi des choses à faire aboutir qui ne sont pas forcément dans les priorités aujourd'hui de Valérie Pécresse, en l'occurrence, puisque c'est elle qui décide.
Et alors justement, comment les pouvoirs publics qui gèrent les transports et les entreprises concernées font appel à vous? À quel point ils vous sollicitent pour engager des politiques en faveur des usagers?
Nous, on essaye d'être interlocuteur à la fois pour faire remonter ce qui ne va pas. Alors, vous allez me dire, ça a l'air peut-être évident, mais en fait, pas forcément pour ces grandes entreprises qui ont beau avoir toute une batterie de contrats avec des indicateurs, etc. À un moment donné, le fait d'aller les voir et leur montrer un problème donné, de leur exposer aussi de propositions, parce qu'on ne fait pas non plus que critiquer, on essaye de proposer, et on peut parfois faire avancer des choses, même si c'est toujours un peu compliqué, puisqu'on est sur souvent des budgets assez importants.
Justement, avec l'association, vous avez lancé le projet Témoins de ligne. Donc, le but, c'est de recueillir des témoignages d'usagers et de diverses lignes de transport, que ce soit bus, métro, etc. Et d'avoir justement leur retour sur expérience, si je puis dire, afin donc d'améliorer à l'avenir les conditions de déplacement. Parmi les témoignages que vous avez recueillis depuis le début de ce projet, qu'est-ce qui est le plus ressorti ?
Alors, cette opération témoigning, elle nous permet de faire remonter, pas évidemment des problèmes très, très importants comme la saturation de la ligne 13 du métro, bon, que tout le monde connaît, bon, elle ne va pas se résoudre comme ça. Mais par contre, voilà, des petits problèmes de l'information voyageur qui n'est pas à jour, un problème de propreté, de l'éclairage manquant, des petites choses comme ça, un plan qui n'est plus à jour non plus. Eh bien, ça, concrètement, les opérateurs s'engagent à nous répondre et normalement à faire des améliorations correspondantes. Donc c'est l'idée de, voilà, d'obtenir petit à petit des petites améliorations et de ne plus être simplement de râler entre guillemets dans sa barbe ou auprès du guichetier qui n'y est pour rien, le pauvre.
Et est-ce que justement ces améliorations ont été concrètes, ont été faites ? Vous les avez remarqués et les usagers vous l'ont...
Oui, alors tout à fait, il y en a une partie de ces témoignages qui derrière aboutissent à des améliorations concrètes. Il y en a d'autres malheureusement qui ne sont pas forcément suivis des faits. On peut aussi les renouveler, il faut être parfois tenace.
Lesquels par exemple, s'il y a des exemples concrets ?
Ouais, ben, par exemple, voilà, on a eu des usagers qui, quand le tramway était arrêté, n'importe quelle ligne de tramway, ben, ils ne savaient pas où trouver le bus de remplacement qui généralement est mis en place quand le tramway est arrêté. Ben, on a obtenu de la RATP qu'il y ait un fléchage et des poteaux d'arrêt prêts pour ce service de substitution des tramways.
Une autre difficulté qui s'ajoute à tout ça, c'est le projet du Grand Paris Express, je vais faire dans l'ordre, c'est mieux, qui va à terme faire sortir de terre les lignes 15, 16, 17 et 18. Voilà, dans le but de rallier davantage la petite et la grande couronne de Paris sans forcément passer par le cœur de ville. Donc ça signifie évidemment beaucoup de coûts financiers et de nombreux aménagements qui ne sont pas d'ailleurs toujours compris et acceptés par les habitants. Il y a eu des mobilisations militantes contre certains projets. Par exemple, l'une des gares de la ligne 17 Nord qui se trouve dans le Valoise en plein milieu de terres fertiles, ou encore la ligne 18 qui traverse les champs du plateau de Saclay et qui sont d'ailleurs pas forcément accessibles quand on habite entre deux stations parce que les distances sont assez grandes. On en parlait juste avant avec Action Justice Climat, mais dans un contexte de crise environnementale et de perte d'autonomie nourricière, seulement 4 jours pour que Paris serait autonome pour seulement 4 jours, on peut s'interroger sur la réelle plus-value pour les usagers, sachant que certaines lignes sont déjà desservies, certaines gares sont déjà desservies aujourd'hui.
Oui, alors ce projet du Grand Paris, bon, il a été lancé maintenant il y a plus de 15 ans, mais malheureusement ou heureusement, en tout cas, on n'en a pas vu encore grand-chose, si ce n'est la ligne 14 prolongée à Orly qui était inclue dans le projet. Mais c'est vrai que nous, dès le départ, on a eu un regard un peu contrasté, à la fois en soutien globalement à la ligne 15, qui est la rocade de Proche-Couronne, en gros, qui doit être un peu une alternative à la 86. Et en revanche, on a eu un regard plus critique, effectivement, sur la ligne 17 et la ligne 18, et notamment ces portions qui ne desservent pas grand-chose, puisqu'en plus, voilà, le projet de la ligne 17 avait été monté à l'époque pour le projet Europa City, qui était un énorme centre commercial et de loisirs, qui a été abandonné en 2019. Mais on a conservé la gare, et aujourd'hui, effectivement, on est en train de construire cette gare au milieu d'un champ. Et on dit ça à tout le monde, et on continue, les travaux continuent. Donc c'est vrai qu'il y a, à un moment donné, une difficulté de l'État, en l'occurrence, hein, puisque là, maintenant, c'est le Grand Paris, c'est l'État, mais même, de toute façon, la région est d'accord avec cette gare dans un champ. Il y a une difficulté à dire, bon, bah, on a fait une erreur, on arrête les frais, enfin, à minima, on gèle l'ouverture de la gare parce qu'elle n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est vrai que c'est l'inconvénient de ce projet du Grand Paris qui a des aspects positifs, mais dans lequel on est incapable, effectivement, de corriger les erreurs.
Oui, est-ce que vous diriez que dans ce genre de projet, justement, vous, en tant qu'association, est-ce que vous estimez que vous n'avez pas assez de poids face à la RATP et même à la région, l'État ? Que vous n'êtes pas assez écouté ?
Là, clairement, sur le sujet du Grand Paris, c'est vrai que à partir du moment où ça découle d'un accord entre l'État et la région en 2011 et tous les départements et tous les grands élus d'Île-de-France, quasiment sans exception, on a du mal à faire entendre une voix en disant oui, il y a des choses bien, mais d'autres, il faudrait corriger. Et là, clairement, on a beau aller voir, y compris les différents ministres des Transports successifs, ils ne sont pas en capacité, en tout cas, ils n'ont pas rectifié le projet, et on le regrette.
Parmi vos missions également, il est inscrit sur le site internet de l'AUT que vous œuvrez, je cite, pour de meilleures conditions de déplacement des piétons, cyclistes et personnes handicapées. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, seule la ligne 14 et une partie de la ligne 11 est accessible pour les personnes en situation de handicap, en tout cas facilement avec des ascenseurs, des lignes un peu plus peut-être larges?
Alors effectivement, il y a tout le métro historique, en gros, qui n'est pas accessible. Alors il y a quand même eu des choses qui ont été faites sur les 15 dernières années. L'effort a porté sur les gares SNCF et RER. Alors même s'il reste des sujets de hauteur de quai, hauteur de train, mais il y a quand même des efforts au niveau du RER. Les tramways évidemment sont accessibles, les bus il y a eu également des efforts, mais en revanche le métro effectivement ça reste une problématique. Alors là-dessus Valérie Pécresse s'est exprimée après les Jeux paralympiques en disant on va rendre le métro accessible. Nous on voudrait bien hein, évidemment, mais de ce qu'on voit, de ce qu'on sait, de la complexité. On craint que ça soit, en tout cas tout le réseau de métro, hors de portée, compte tenu de la façon dont ont été faites les stations il y a plus de 100 ans. Hein. Donc on est assez perplexe sur cette possibilité-là. Mais c'est aussi pour ça qu'on dit que, il faut que tous les autres modes de transport fonctionnent bien, et notamment dans Paris, le bus, c'est le mode de transport accessible par excellence, mais malheureusement, il est trop peu fiable.
Et alors justement, en off, vous me disiez que les bus étaient un peu oubliés des lignes de transport, de pouvoirs publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, le constat qu'on fait, c'est que alors effectivement, les élus sont très contents d'avoir des nouveaux métros. Tout le monde veut sa ligne de métro, c'est très bien. Ils sont aussi plutôt pour améliorer le RER. Mais par contre, les bus... Voilà, ça nous intéresse moins, voire c'est considéré comme un mode de transport gênant. Et donc, on a parfois des aménagements, y compris qui ont l'air louables, des piétonnisations, mais on ne fait pas attention au trajet des bus. On piétonnise 50 mètres de rue et puis on fait faire des détours aux bus qui, derrière, perdent de l'attractivité, perdent des usagers. Donc, c'est aussi pour ça qu'on souhaite que dans les municipales, ce sujet des bus soit bien présent.
Il y a aussi une grosse question entre l'équilibre entre cyclistes, piétons et automobilistes. On sait, et même les bus, je prends le bus des fois de temps en temps, et ils vont hyper vite et ils font assez peu attention en général. Est-ce que ça aussi, c'est un des sujets que vous essayez de porter avec les pouvoirs publics ?
Oui, c'est la difficulté effectivement d'avoir autant que possible des aménagements de voirie qui pacifiés, où les véhicules vont pas trop vite, mais où il y a une bonne cohabitation et aussi faire respecter un minimum les règles. Nous, par exemple, on milite pour le retour d'une police de circulation, non pas pour mettre forcément des PV, mais pour les carrefours, parce que bien souvent, ce sont les carrefours bloqués en fait qui bloquent aussi les bus. Et si on mettait quelques agents de circulation au carrefour critique, eh bien, on pense qu'on pourrait remettre un peu d'ordre et améliorer par ce faire les bus.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Marc Pellissier d'avoir été avec nous. Vous êtes président de l'Association des usagers des transports d'Île-de-France. Et merci à toi Alice pour le Zoom. On se repose un peu les méninges après tous ces fabuleux entretiens en écoutant Damaged Goods de Gang of Four.
Sometimes I'm
C'était Damage Goods de Gang of Four. Faux choix. Toujours sur Radio Campus. J'avais envie de dire faux choix. Il est 19h56. Vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et c'est le moment tant attendu dans la chronique libre de Fabrice. Ce soir, Fabrice, tu t'intéresses au parcours d'une goutte d'eau.
D'eau potable à Paris qui coule dans les tuyaux de Radio Campus Paris pour tomber dans ma gourde et qui m'hydrate avant de prendre la parole. D'abord, tu sais d'où viennent les réserves d'eau de Paris ?
Je sais pas, je veux dire des nuages, de la Seine.
De la Seine ? Il y a plusieurs sources dans les régions Île-de-France, Centre-Val de Loire, Normandie et Bourgogne-Franche-Comté. Ça représente plus de 400 km de canalisation pour desservir la capitale notamment. Sur ces 400 km, imaginez que la moitié vient des rivières en surface, la Seine entre autres, et l'autre moitié de nappes souterraines. Autre question, pour toi, où sont traitées les eaux usées en Île-de-France ?
À Charenton-le-Pont.
Pas que. Je fais très simple et ma réponse ne va pas être totalement correcte, mais à la station d'épuration d'Achères, dans les Yvelines, la plus grande station d'épuration d'Europe et deuxième plus grande du monde, Cocorico. Il s'agit d'une ville dans la ville, l'usine à ciel ouvert se trouve le long de la Seine et pour circuler dans la station d'Achères, mieux vaut une voiture. Je vais reprendre quelques points que je viens de vous dire pour éclaircir certains points. En fait, au 19e siècle, quand le choix a été fait de sécuriser la ressource en eau, Paris était une ville déjà très urbanisée. Le choix a été fait d'aller chercher la ressource loin, donc à 150 km de la zone urbaine en moyenne. Il est aussi nécessaire de sécuriser la ressource, d'où le fait qu'il y ait plusieurs sources différentes pour stocker l'eau destinée à la consommation humaine à Paris. Eau de Paris, qui gère l'eau potable dans la ville Lumière, a 5 réservoirs. Un dans le 13e, près du parc Montsouris, un autre dans le 20e, à Ménilmontant, un à La Haye-les-Roses, près d'Orléans, un autre à Saint-Cloud et le dernier au Lila. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de points hauts en France. Plus l'eau est en hauteur, plus la force de l'eau lui permet de parcourir des kilomètres sans énergie supplémentaire.
Et les eaux traitées à Achères, elles vont où après ?
Elles sont rejetées à terme dans la Seine, passent ensuite par Rouen, Honfleur et se jettent dans la Manche au niveau du Havre. D'après toi, entre la source d'une goutte d'eau potable qui coule dans les tuyaux de Radio Campus Paris et la Manche, combien de kilomètres, combien ça représente ?
332,40.
316, t'étais pas très loin, ça va. D'après Google Maps, alors vous imaginez que le calcul n'est pas propre, mais vous avez l'ordre de grandeur. Pensez-y la prochaine fois que vous avez soif de voyage.
Merci beaucoup Fabrice pour cette chronique libre. Et il est temps pour nous de rendre l'antenne. Merci d'avoir été avec nous pour cette matinale du 10 février. Merci à tous les bénévoles qui font vivre la matinale. Abel à l'interview, Alice au Zoom, Tiana au Flash Info, Greg à la chronique actu et Fabrice à la chronique libre. À la réalisation, il y avait Julie et Julie. Je vous jure que ce n'est pas les mêmes personnes. Merci à Jeanne et Aude, coordinatrices de la matinale. Et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs. On enchaîne à 20h avec l'émission 4e Murmure, l'émission qui apporte un éclairage sur le paysage français de la presse indépendante. Rendez-vous dès demain pour la prochaine matinale. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à bientôt sur Radio Campus Paris.